Hola, buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens, avec aujourd'hui les infirmières espagnoles en Finlande, les citadins grecs qui vont chercher du travail en ville, un livre sur l'amour et le désir en Pologne, les Turcs qui quittent à contre-cœur leur résidence d'été, mais tout de suite une affaire de discrimination capillaire.
I am a very stylish girl.
Pourquoi les femmes doivent-elles toujours payer plus cher que les hommes chez le coiffeur ? Au Danemark, une jeune femme dénonce cette inégalité. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause, Sungshin Courrier.
L'affaire remonte à 2012. Une dame aux cheveux courts se rend chez un coiffeur qui lui réclame pour sa coupe une somme presque 15 euros plus élevée que celle qu'il demande à ses clients masculins. Jusque-là, rien d'exceptionnel, si ce n'est que la cliente porte plainte auprès du Conseil de l'égalité des chances. Elle est alors reconnue victime de discrimination et le coiffeur se voit obligé de lui payer presque 350 euros de dédommagement. Mais le coiffeur estime que cette décision est injuste et il s'en plaint auprès de son syndicat. L'Union des professionnels de la coiffure et des produits cosmétiques dépose alors une plainte contre le Conseil de l'égalité des chances. Le procès vient de s'ouvrir à la Cour de Copenhague. L'Union des coiffeurs insiste sur le fait que le facteur crucial pour décider d'un prix est le temps passé sur une coupe et non le sexe du client. Le coiffeur, quant à lui, argumente que la coiffure pour hommes est toujours enseignée au début de leur formation parce qu'elle est plus facile à maîtriser, tandis que les coupes pour dames sont expliquées à la fin parce qu'elles nécessitent justement des techniques plus difficiles. Il ajoute que les femmes demandent en général plus de produits et plus de conseils et que c'est pour cette raison qu'il faut naturellement faire payer plus aux femmes qu'aux hommes. Comme la question est délicate et surtout comme elle peut avoir de lourdes conséquences sur tout un secteur, il peut s'écouler plusieurs mois avant qu'une décision tombe. Autant vous dire que le jugement est attendu avec impatience par l'industrie de la coiffure et par toutes les Danoises.
Depuis quelques années, la Finlande doit faire face à une pénurie de personnel médical. Les postes d'aides-soignants et infirmiers, difficiles et pas très bien payés, sont boudés par les Finlandais. Le pays se tourne donc vers l'étranger, notamment vers les pays d'Europe du Sud, au taux de chômage élevé. Depuis 2010, plusieurs centaines d'Espagnols et de Grecs ont ainsi traversé le continent pour travailler dans les hôpitaux finlandais. Mais leur intégration est loin d'être facile, notamment en raison de la pratique de la langue finnoise. C'est un reportage de Pauline Curtet.
Dans cette unité de rééducation de l'hôpital de Sastamala, petite ville située au sud de la Finlande, on avait bien du mal à recruter du nouveau personnel. De son pays natal, l'Espagne, l'infirmière Alba Parella Torabadella a entendu parler de ses difficultés. Pour elle, c'était l'occasion de changer de vie. Elle a postulé et a vite été embauchée. Résultat, depuis plus d'un an, la jeune infirmière vit en Finlande. Elle a sauté le pas avec son mari, médecin et leurs 4 enfants. Elle ne regrette pas son choix, mais reconnaît qu'il est parfois compliqué de s'adapter aux habitudes finlandaises.
Le plus dur, bien sûr, c'est la langue. En Espagne, il était tellement évident pour moi d'expliquer quelque chose à un patient. Mais ici, c'est impossible, c'est très frustrant. Par exemple, si je veux dire quelque chose d'aussi simple que « je vais prendre votre tension », c'est tellement difficile. Alors je m'en sors avec des grands gestes. Parfois, le malade me regarde d'un air étrange. Il a l'air de dire « mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu bouges comme ça ? Les Finlandais n'ont pas l'habitude. »
Allongée sur son lit, une des patientes d'Alba l'écoute attentivement, avec un sourire.
Pour moi, une infirmière espagnole ou finlandaise, ça ne change rien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. À mon entrée dans l'hôpital, je n'étais pas surprise de rencontrer Alba, car j'avais lu dans le journal qu'elle était arrivée.
Si Alba, avec ses gestes, son finnois encore hésitant et sa joie de vivre, est devenue en quelque sorte une célébrité locale, elle est loin d'être la seule à avoir changé de vie pour s'installer en Finlande. Les chiffres officiels n'existent pas vraiment, mais on estime que depuis 2010, plusieurs centaines d'étrangers sont venus travailler dans le secteur médical du pays. La majorité vient d'Estonie, d'Espagne ou de Grèce, attirés par des programmes de recrutement ou par le bouche à oreille. Avant de venir travailler en Finlande, beaucoup de ces étrangers bénéficient de cours de finnois sur Internet dans leur pays d'origine. Les cours se poursuivent une fois arrivés en Finlande. Kirsty Fontaine est professeure de finnois. La majorité de ses élèves sont espagnols.
En principe, ça se passe en bonne humeur et sont motivés. Par contre, on doit faire plus attention aux méthodes d'apprentissage parce que ce n'est peut-être pas tout à fait les mêmes méthodes, par exemple en Espagne et en Finlande. On a plus l'habitude de on pourrait dire sur la base de discussions, de questions, on attend beaucoup des étudiants. Et en Espagne, je crois que c'est l'inverse. Ils attendent beaucoup qu'on donne un programme bien établi à l'avance.
Durant les premiers mois, les salariés étrangers se débrouillent en mélangeant anglais et finnois pour se faire comprendre au travail et pour éviter les erreurs médicales ou de prescription. La pratique de la langue est d'ailleurs déterminante pour la qualification. Alexandros, un jeune grec de 25 ans, travaille depuis plus d'un an dans une maison de retraite finlandaise. Encore aujourd'hui, il est aide-soignant et non infirmier, malgré ses diplômes.
Je fais des progrès, je parle beaucoup mieux le finnois, mais pour devenir infirmier, je dois passer des tests de langue préparés par les hôpitaux et je n'ai pas encore le niveau. Je vais quand même m'accrocher car je veux rester.
Si Alexandros ou Alba ne comptent pas rentrer chez eux de sitôt, ce n'est pas le cas d'Atanisia Eluaz, une aide-soignante grecque, employée, elle aussi, dans une maison de retraite finlandaise depuis plus d'un an.
Nous sommes venus en Finlande car mon mari infirmier avait trouvé du travail ici. Malheureusement, il n'a pas réussi à s'adapter, il est rentré en Grèce et nous avons décidé de nous séparer. Je suis restée car je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas récupérer mon ancien emploi en Grèce. Mais ici, je suis triste. La culture, l'attitude des gens, tout est différent. Je pense rester encore un an ou deux et puis je partirai.
I feel sad here.
Le cas d'Atanisia est loin d'être une exception. Beaucoup d'infirmières ne restent en Finlande que quelques mois avant de repartir. Pirjo Raunio, chercheuse finlandaise, vient de publier une thèse à ce sujet.
Souvent, les infirmières s'en vont car elles n'ont pas obtenu de poste à la hauteur de leurs attentes. Elles arrivent dans de petits villages, elles se sentent seules, elles ne parlent pas la langue, leur famille leur manque et je pense que nous, les Finlandais, devrions plus nous en occuper. Il faudrait leur expliquer plus en détail ce qui les attend. Nous donnons parfois une image trop idyllique de notre pays.
Rosy picture, everything is well.
Pirjo Raunio propose, par exemple, de mieux former le personnel finlandais à accueillir et encadrer ces infirmières. Car la réussite de leur intégration va devenir cruciale. Dans les années à venir, des milliers de postes dans le secteur médical finlandais devront être remplis.
Contraints et forcés par la crise, de nombreux Grecs doivent bouger pour trouver du travail, soit vers l'étranger, on l'entendait à l'instant, soit en quittant les villes pour tenter leur chance dans l'agriculture, nous en parlions la semaine dernière, soit en quittant les campagnes en déshérence pour tenter leur chance en ville. Un besoin économique vital, même si ces ruraux gardent bien souvent la nostalgie de leur campagne. Nous vous proposons cette semaine une série de 3 reportages dans les campagnes grecques, signés Charlotte Stivenard et François Chevret, qui ont battu la campagne à vélo.
Il faut sortir de la petite route départementale qui mène au Météore, ces montagnes chauves coiffées de monastères en plein centre de la Grèce, pour arriver à Agios Dimitrios. À la terrasse d'un café du village, une dizaine de retraités discutent pour tuer le temps. Seul un jeune est venu s'asseoir avec eux, il s'appelle Vassilis. Après quelques minutes, il nous propose de faire le tour du village. Lorsqu'il nous montre les maisons en crépit et nous présente les passants, Vassilis a le sourire aux lèvres. Revenu à Agios Dimitrios pour les vacances, il y retrouve sa famille, ses voisins et l'ambiance de son enfance. Comme beaucoup de ses amis, il est parti à Athènes pour travailler. À 25 ans, il est chauffeur-livreur de médicaments pour les pharmacies et les hôpitaux de la capitale. Il gagne bien sa vie, 900 euros par mois, pas mal pour un salaire grec selon lui, mais il a du mal à s'habituer à la vie urbaine.
Athènes, c'est la jungle. Alors qu'au village, on a de l'air, c'est la nature, les gens ne passent pas leur temps à surveiller l'heure. Athènes, c'est une grande capitale, il y a du travail, de la culture, mais je préfère le village. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très important pour moi. Partout où je vais, je pense à lui.
Avec 55 habitants à l'année, Agios Dimitrios a dû fermer son école. Les hivers sont longs dans ce village en cul-de-sac encerclé par les montagnes. Pour faire ses courses, il faut parcourir presque 20 km. Pourtant, cette vie fait rêver Vassilis. Il aimerait s'installer ici, mais c'est peu probable.
J'ai essayé, mais ici il n'y a pas de travail, pas d'avenir. Et les femmes, c'est à la ville qu'elles veulent être, pas au village. La montagne, ça ne les intéresse pas. Elles préfèrent descendre en ville pour se faire les ongles et sortir boire un café.
Dans ce village qui survit grâce à l'agriculture et l'élevage de moutons, Vassilis n'aurait guère le choix. Et même s'il rêve de la campagne, il a pris les habitudes de la ville. Alors qu'il ne peut pas s'empêcher de regarder son téléphone portable toutes les 5 minutes, il ne supporterait pas l'isolement.
Le métier de berger, c'est vraiment très dur. Tu dois être là tous les jours, tu dois les traire le matin, leur donner à manger, les faire sortir, puis retourner à la maison, ramener de la nourriture, les traire encore. Tu ne peux pas dire que tu es malade, tu dois y aller sous la pluie, la neige, et surtout, tu ne vois jamais personne, juste les montagnes.
Comme chaque été, Agios Dimitrios a l'impression de revivre. Les exilés sont là pour les vacances, avec leurs enfants qui goûtent à la vie de village et jouent sur le terrain de sport. Comme Dimitris, ils savent qu'ils ne reviendront jamais s'installer ici, du moins pas avant la retraite. À l'autre bout de la Grèce, sur la côte nord du Péloponnèse, l'ambiance est beaucoup plus calme. Sur des dizaines de kilomètres, les maisons se succèdent face à la mer bleu turquoise. Elles sont presque toutes fermées. Stella habite à Ligia, une commune de 300 habitants. Cette étudiante de 25 ans passe l'été dans la ferme de ses parents à écrire son mémoire pour l'université. Ses cheveux longs, sa robe d'été et son anglais parfait contrastent avec le milieu agricole dans lequel elle vit. Contrairement à Vassilis, Stella voulait absolument quitter son village, avec un rêve, celui de devenir journaliste.
Il y a 2 ou 3 ans, j'étais catégorique. J'étais sûre que je ne vivrais jamais ici, parce que je voulais faire carrière, faire des choses à Athènes.
Autour d'un verre d'ouzo, un alcool grec à l'anis, Stella nous avoue qu'avec la crise, elle ne vivra peut-être jamais de sa passion pour le journalisme. Cette constatation l'a poussée à réfléchir sur son avenir. Sa mentalité a changé et aujourd'hui, elle n'exclut pas de rentrer au village.
Je pense que maintenant, c'est une option plutôt intéressante pour moi. On doit être plus intelligent, reprendre des idées qu'on avait plutôt négligées par le passé. Vous savez, on se concentrait surtout sur nos carrières futures. Je pense qu'on ne peut pas voir les choses comme ça. Maintenant, on doit trouver d'autres solutions. Pourquoi pas revenir à la campagne, par exemple ?
Coming back to nature. Maybe.
Pour autant, la jeune femme veut tenter sa chance dans le journalisme. Maintenant qu'elle termine ses études, elle se donne quelques mois pour trouver un poste. Si ce n'est pas le cas, elle devra se tourner vers des petits boulots. Elle se dit prête à cette éventualité, mais veut à tout prix éviter une chose.
Ce que je sais, c'est que je ne veux pas faire un travail qui me fasse oublier ma passion. Je ne veux pas bosser 12 heures par jour. Beaucoup de gens en Grèce travaillent 14 heures par jour. Ils font un travail qu'ils détestent parfois. C'est triste. Ce n'est pas les études, c'est les rêves qui sont gâchés.
It's about the dreams that you wasted.
En attendant, Stella travaille bénévolement comme journaliste culturelle pour un site internet qu'elle a créé avec ses amis. Sa façon à elle de vivre son rêve.
Un reportage de Charlotte Stevenard et François Chevret. Demain, rencontre avec les retraités grecs qui ont travaillé toute leur vie en Allemagne.
Good evening, ladies and gentlemen.
You recognize my voice?
This is your storyteller.
And that's a good start.
Livre.
Et notre chronique nous emmène dans la très catholique Pologne où un livre fait actuellement un tabac et pour cause, il parle de sexe. Bonjour Maja Szymanowska.
Oui, bonjour Laurent.
L'amour et le désir de Paulina Reiter et Lev Starovitch est d'ores et déjà un best-seller. Un livre qui plaît et qui d'ailleurs parle du plaisir, Maja.
Ce livre est en quelque sorte très moderne pour la Pologne, mais pour un public d'autres pays, il pourrait paraître bien conservateur. Il est moderne en voulant décomplexer le désir, surtout le désir féminin, toujours stigmatisé par l'Église catholique malgré les écrits de Jean-Paul II qui admettait le plaisir au moins au sein du mariage. L'ouvrage est aussi moderne dans la distance qu'il prend avec les préceptes de l'Église. Nous apprenons par exemple que ressentir le désir pour les étrangers n'est pas mauvais quand on est en couple, c'est même naturel. Tout se joue dans l'après, ce que nous faisons de ce désir ensuite. La jouissance féminine est présentée sur le même plan que la jouissance masculine, le divorce est pris en compte, et le sexologue Lev Starovitch juge très positivement les moyens de communication modernes, notamment les sites de rencontres sur Internet, qui d'après lui permettent de choisir un partenaire qui nous correspond. L'accent est mis aussi sur les manières de trouver un partenaire et comment faire durer le désir au sein d'un couple.
Alors, est-ce que les auteurs de ce livre sont représentatifs de la manière dont les habitudes sexuelles évoluent en Pologne, Maya ?
Paulina Reiter est une jeune journaliste féministe. Lev Starovitch est une sommité de sexologie en Pologne. C'est le monsieur sexe, avec une cinquantaine de livres publiés sur la question, avec de nombreuses participations à des émissions télé et radiophoniques sur le sujet. Une statue de commandeur souvent critiquée aujourd'hui, voire décriée pour ses positions conservatrices.
En effet, Lev Starovitch est un personnage complexe, voire controversé, non ?
Oui, il a commencé à publier dans les années 70-80 et ses livres étaient alors une véritable révolution. Il a avoué dans sa récente autobiographie avoir participé à des traitements par électrochoc effectués sur des homosexuels dans les années 70, mais il condamne aujourd'hui ces pratiques et défend les homosexuels contre les enseignements de l'Église catholique polonaise. Il a été le premier à créer un centre d'études sur la vie sexuelle des handicapés, mais il a aussi été violemment critiqué par des féministes suite à ses propos pleins de compréhension pour les violeurs, qu'il côtoie de temps en temps en tant qu'expert auprès des tribunaux.
En tout cas, ce livre n'a pas eu besoin de publicité pour bien se vendre, Maya.
Alors, ce livre est en effet en rupture de stock depuis quelques jours. Même si ce n'est pas le seul sur ce sujet, le nom de Lev Starovitch attire le public et ce mélange entre tolérance et vision d'un couple traditionnel a du succès en Pologne. D'autres ouvrages qui ont traité plus crûment du sexe connaissent eux aussi un grand engouement. Personne n'a vraiment parlé du livre de Catherine Millet dans la presse polonaise. Pourtant, La vie sexuelle de Catherine M. a fait l'une des meilleures ventes d'Europe. De quoi écorner l'image très prude des Polonais.
Merci Maya Szymanowska, à très bientôt sur Accent d'Europe.
Au revoir Laurent, à bientôt.
La fin de l'été pour de nombreux Turcs, cela signifie qu'il faut quitter son yazlık, leur résidence d'été. Un phénomène qui se développe depuis une trentaine d'années à la faveur de l'émergence d'une classe moyenne en Turquie. Et une exposition visible à Istanbul en ce moment explore ce concept. Anne Andlauer nous en dit plus.
Demandez à un Turc ce que lui évoque le yazlık. Peut-être vous décrira-t-il une petite maison, de plein pied ou bien d'un étage, une table en plastique sur une terrasse à l'ombre, un jeu de cartes usé à force d'être battu, un jardinet fleuri, les voisins qui s'invitent pour un thé à toute heure, une balançoire qui grince et la mer à 10 pas. Le yazlık, concept intraduisible issu du mot été, yaz, désigne à la fois cette maison dans un ensemble de maisons et cette culture estivale que des centaines de milliers de Turcs réveillent chaque année. Quand vient la belle saison, on ferme la maison en ville pour quelques semaines à la mer de Marmara, Égée ou Méditerranée. L'envie de quitter la grande ville pour se reposer près de l'eau n'est pas nouvelle, évidemment. Au XIXe siècle, à Constantinople, la cour ottomane et les diplomates troquaient chaque été leur palais pour des yaleux, grandes maisons sur le Bosphore ou sur des îles en mer de Marmara. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État commence à promouvoir le tourisme des côtes et l'on voit apparaître les premiers lotissements, le plus souvent construits par des sociétés coopératives. Mais c'est seulement au cours des années 80 qu'une classe moyenne naissante commence à rêver à son tour d'une place au soleil. Les promoteurs immobiliers flairent la bonne affaire et n'ont guère de difficultés avec les permis de construire. Il suffit de bâtir pour être sûr de vendre, de véritables villages s'étendent sur les littoraux. On recensait en 2008 près de 550 000 de ces logements secondaires. Jusqu'à la mi-novembre, une exposition à la Galerie Salt d'Istanbul explore pour la première fois ce phénomène de société. Archives photos, vidéos, mobilier, plans, brochures, le yazlık, la colonie des citadins, c'est le nom de cette exposition, regorge de pistes de réflexion et pose notamment cette question. Les yazlık, à force de s'étaler et de se ressembler, ne sont-ils pas devenus des extensions de la ville plutôt que leur échappatoire?
Et c'est la fin d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve demain sur les ondes et tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent d'Europe. Si je m'épanouis.